Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez 6ème Science. On n'est pas là pour vous enfumer. En toute franchise, cet épisode n'a pas vocation à faire la morale consommateur de cannabis. Notre but aujourd'hui, informer aussi bien ceux qui tirent de temps en temps, les rouleurs de joints réguliers, les parents inquiets, les curieux et tous les autres. Je serais personnellement satisfait que vous sortiez de cette écoute avec la sensation d'avoir appris quelque chose. Cette précision faite, ce qui est important de rappeler aussi, c'est que la plus consommée des drogues illicites, à contrario de l'alcool et du tabac, est d'abord et avant tout une drogue. Avec les effets grisants que l'on connaît bien et les conséquences sur le cerveau que les scientifiques connaissent bien eux aussi désormais, car la législation du cannabis dans de nombreux États américains ces 10 dernières années a fourni toute la matière nécessaire à études. Et c'est leur conclusion que nous allons regarder ensemble aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes. Même si la consommation est en nette baisse depuis 2014 chez les moins de 17 ans, les adolescents restent un public particulièrement vulnérable, avec le risque de développer non seulement une dépendance, mais aussi des crises psychotique. Vous connaissez mon envie habituelle de jouer sur les mots dans mes introductions, j'ai bien pensé à le faire et à faire des métaphores sur le tarpé, le bédo et la fumée, mais étant donné la gravité du sujet, la sobriété, je pense, était de rigueur. Et puis, c'est pas tous les jours que j'accueille un nouveau à mon micro. Pierre Caldi est journaliste à Roulement de tambour, Science et Avenir. Vous pouvez le lire dans le numéro 925 du magazine de vulgarisation, mais il est avec nous pour spoiler son dossier comme il faut. Bonjour Pierre.
Bonjour Romain.
Ton dossier s'ouvre cash, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un sujet, la légalisation de la vente et de la consommation du cannabis en France. Mais pour l'Académie nationale de médecine, c'est tout simplement une grave erreur sanitaire. Est-ce que c'est cette mise en garde qui a motivé l'écriture de ton dossier ?
Oui, c'est vrai que quand on a vu cette mise en garde qui était vraiment très documentée et avec un dossier qui est déjà très lourd hein, concernant le cannabis, c'est pas la première fois que l'Académie nationale de médecine et aussi de pharmacie attire l'attention sur le problème pour la santé publique du cannabis. Et en plus, il y a eu un rapport qui a suivi donc de l'Académie nationale de médecine le 7 novembre qui montrait qu'il y avait vraiment matière à inquiétude puisque maintenant on commence à connaître en détail les effets du cannabis sur le cerveau et bien sûr aussi sur d'autres parties du corps comme les poumons, et donc il était nécessaire de faire le point sur le sujet.
Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut faire peut-être un état des lieux de la consommation, ou plutôt des consommations, puisqu'on peut parler de cannabis récréatif, on peut parler de cannabis thérapeutique, car aujourd'hui en France, le cannabis n'est pas légal, à la différence de certains États des États-Unis, ils sont nombreux, mais aussi de l'Allemagne, où le cannabis sera totalement légal à compter du 1er avril, même si je crois que c'est pas plus de 25 grammes par personne, il me semble.
Oui, alors la France est le second consommateur en Europe, donc c'est quand même un pays qui
tire.
qui est en pole position pour ça, mais en fait, on est sur un plateau depuis une dizaine d'années, avec 11% de personnes qui ont utilisé du cannabis. Après, on peut le décomposer, il y a quand même 14% d'hommes et 7% de femmes. Apparemment, ça a l'air de diminuer un peu, hein. On est vraiment sur un plateau. Ensuite, pour la consommation régulière, on estime qu'il y a à peu près 3% d'adultes qui le pratiquent et la moitié le pratiquerait de façon quotidienne. C'est-à-dire que là, on rentre dans ce qui peut s'apparenter à une dépendance. C'est une consommation qui reste néanmoins assez élevée.
Et qu'en est-il du cannabis dit thérapeutique ? C'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui.
Alors, comme le dit le professeur Nicolas Autier, que j'ai interrogé à ce propos dans l'article, c'est un abus de langage de parler de cannabis thérapeutique. Il m'a dit, mais on ne parle pas de pavot thérapeutique pour parler de la morphine. C'est vraiment deux choses différentes. Quand on parle de cannabinoïde thérapeutique, en fait, c'est une expérimentation qui est en cours sur 3000 personnes, donc un essai clinique qu'il a dirigé, hein, et qui donne ses résultats maintenant et qui sont bon, plutôt encourageant, mais sur des indications très précises qui concernent des maladies rares, par exemple des épilepsies ou le traitement de contractures pour la sclérose en plaques. Ça reste sur des indications très, très pointues.
D'ailleurs, il n'est pas fumé.
Il n'est pas fumé, non, pas du tout. C'est pris par voie orale. Ce sont des gélules. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de faire des dosages très précis. Parce qu'il y a quand même un risque. On agit avec quelque chose qui a des effets sur le cerveau et pas que sur le cerveau, sur l'organisme. Donc, il faut faire attention quand on est dans un cadre strictement médical.
Avant d'aller plus loin, on est encore un peu en train de poser le décor, hein, désolé. Mais est-ce qu'on peut faire la distinction entre le cannabis, donc la plante qu'on connaît, hein, et le CBD, un dérivé qu'on voit aujourd'hui et qu'on peut trouver dans des boutiques dans les rues françaises, avec du côté du CBD, donc pareil, là on a un acronyme, et de l'autre, le THC, qui est la substance psychotrope contenue dans le cannabis.
Alors, effectivement, la substance psychotrope, c'est le delta 9 tétrahydrocannabinol, donc
abrégé
THC, voilà. Et en fait, le CBD, c'est un peu sa petite sœur, hein. C'est aussi une molécule chimique qui lui ressemble beaucoup. Ils font partie d'une famille des cannabinoïdes, et on en a dénombré plus de 140 déjà dans la plante. Donc le CBD, on sait qu'il n'agit pas sur les récepteurs qui provoquent de l'euphorie, hein. C'est pas un psychotrope qui a ces effets-là, mais on sait qu'il agit sur des neurotransmetteurs, donc il a forcément des effets sur le cerveau. Pour l'instant, il est très peu étudié, donc ce qu'on voit dans les magasins, c'est quelque chose qui, en fait, est une faille dans la législation. On ne peut pas légiférer sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, pour l'instant, il faut faire très attention, parce qu'on sait, par contre, que le CBD interfère avec certains médicaments. Mmh. Et de même, comme on ne sait pas trop ses effets, c'est fortement déconseillé pour les femmes enceintes. Ensuite, comme le CBD est purifié de la plante, et que la plante contient aussi très peu de THC, ce THC peut se retrouver dans du CBD, et donc peut positiver des tests routiers, par exemple. Mmh. Voilà. Donc attention, CBD, on ne le prend pas n'importe comment non plus.
Oui, j'ai vu ça récemment aussi avec des gummies, des sortes de bonbons au CBD, qui, en fait, il y a des gens qui se sont retrouvés vraiment à faire un bad trip parce que le produit avait été périmé ou il avait été mal entreposé. Enfin, la prudence reste de mise, en tout cas quand on n'est pas un consommateur régulier. Il faut, on va dire, encadrer cette consommation.
C'est ça. À la différence d'un produit pharmaceutique, on ne contrôle pas très bien ce qu'il y a dans tous ces produits. Donc, il vaut mieux être prudent.
Ok. Et avant de parler des effets délétères, puisqu'on a dit les vertus, on les a rapidement brossées, que se passe-t-il dans notre corps après avoir fumé des fleurs ou des feuilles de cannabis ?
Alors, il y a la principale substance qui va agir, qui fait donc euphorisant, stimulant, donc le THC qui passe rapidement dans le sang et qui gagne le cerveau. En fait, c'est une substance qui va se lier très facilement aux graisses. Donc, notre cerveau est très riche en graisse, parce que c'est ce qui sert à isoler nos neurones. Et donc, il va prioritairement dans le cerveau. Et là, on sait maintenant plus précisément quelles sont les zones du cerveau où il y a beaucoup de récepteurs au THC. Ce sont des récepteurs pour un cannabinoïde endogène. Hein. Nous n'avons pas des récepteurs pour le THC. Nous avons des récepteurs pour l'anandamide et d'autres endocannabinoïdes que notre corps produit, parce que ce sont des neurotransmetteurs et qui servent justement à réguler les interactions entre les neurones. Et du coup, l'arrivée donc, du THC va prendre la place donc, de cet anandamide, et on sait maintenant que ça réduit en fait la libération de neurotransmetteurs. Donc c'est un effet plutôt calmant, on va dire, si on veut caricaturer les choses. Mais on sait aussi quelles sont les zones qui sont particulièrement riches en récepteurs anandamide et donc qui sont ciblées aussi par le THC. Et c'est très instructif parce que du coup, ça recoupe ce qu'on sait de ces effets. Donc au niveau du cortex, il y a beaucoup de récepteurs. Or, le cortex cérébral, c'est ce qui recouvre notre cerveau. Hein. C'est tous les neurones qui sont, je dirais, vers la périphérie. Eux ont un effet très important pour tout ce qui est réflexion, projection.
Dans l'avenir, c'est ça.
Et oui, c'est ça. C'est vraiment des neurones pour la pensée, on va dire. Ensuite, il y a aussi d'autres récepteurs au niveau des ganglions de la base. Ça, c'est pour la planification des mouvements et les mouvements eux-mêmes. Donc là, ça peut aussi causer des interférences. Et puis, il y a aussi au niveau de l'amygdale, hein, qui est comme on dit, le cerveau des émotions, qui est au centre du cerveau et qui, lui, est très important pour la genèse des émotions. Si on doit citer les plus importants sites où on va trouver énormément de récepteurs, c'est l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est aussi une structure au centre du cerveau qui est très importante pour la mémorisation.
Et tu écris que le cannabis réduit, attention, terme technique, le métabolisme cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, en fait, ça, on s'est aperçu depuis quelques années qu'il y a des récepteurs à la surface des cellules Mais il y a aussi des récepteurs à la surface des mitochondries, qui sont des petites centrales énergétiques de nos cellules. Et donc, on sait maintenant que le cannabis, comme il diffuse facilement à travers les graisses, les membranes, il va atteindre ces centrales énergétiques et il va réduire leur activité. Or, les mitochondries sont là pour la respiration. En fait, ça revient à réduire le métabolisme des cellules, et notamment des cellules nerveuses, ce qui va expliquer des effets, par exemple, sur l'hippocampe, parce que du coup, l'hippocampe qui est chargé de la mémorisation en lien avec le cortex cérébral va être mis un peu au ralenti.
Oui, c'est ça, il tourne à 80% de ses capacités au lieu d'être plein pot. Et chez un cerveau en plein développement, comme c'est le cas pendant l'enfance, mais aussi et surtout à l'adolescence, là où on est plutôt susceptible de se laisser tenter par un petit joint, quel est l'impact observé par les chercheurs ?
Le cerveau, pendant l'adolescence, finit de se développer, et notamment dans les zones corticales. Et ces zones-là seront très utiles pour justement la planification et toutes les pensées complexes qu'on va avoir en société. Donc cette formation-là, elle suppose des réseaux de neurones. Et quand on introduit un élément un peu perturbateur, ça va modifier la mise en place de ces structures. Donc on commence à comprendre que, d'abord, comme je l'ai évoqué, ça a un effet de réduire le métabolisme. Donc ça va se traduire par une diminution des cellules du cortex cérébral. Ça, on le mesure maintenant. Et en plus, ça va affecter tout le développement du cerveau pour ce qui est des structures les plus complexes. Et ça peut avoir des répercussions par la suite sur la pensée, tout simplement sur la capacité à se projeter et à envisager l'avenir.
Ça peut paraître un peu flou comme ça, tu vois, la capacité à se projeter, mais les études, elles ont mis le doigt de façon assez précise sur l'impact et les conséquences d'une consommation précoce et répétée. 4 fois plus de risque de se retrouver sans emploi, perte de 6 points de QI, quelque chose qui parlera à tout le monde. Comment les chercheurs ont-ils établi le lien avec le cannabis ?
Alors, pour l'effet sur la carrière et sur le risque de se retrouver au chômage, ce sont des études à long terme qui ont été effectuées en France par l'équipe de Maria Melchior de l'INSERM. Et ils ont suivi des enfants, près de 1500, c'est vraiment une étude d'envergure. Ce qui a permis de voir très précisément, parce que dans ce cas-là, on connaissait aussi les parents, on a pu vraiment voir tous les paramètres, essayer de contrôler un maximum de paramètres, parce que bien sûr, il peut y avoir plein de biais, suivant l'éducation des parents, les habitudes de vie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Si les parents sont divorcés, enfin, il y a différentes choses qui peuvent expliquer que l'enfant
tourne bien ou pas.
Puis après, ça peut expliquer la trajectoire de l'enfant sans forcément que le cannabis soit en cause. Et en fait, en tenant compte de tous ces paramètres, il y a quand même un effet du cannabis. Et c'est ça que les chercheurs ont réussi à quantifier. Et ça, c'est une première donnée qui a été mise à jour récemment. Ensuite, en ce qui concerne la baisse de QI, alors c'est une expérience très originale, très long terme aussi, puisque ça s'écoule sur plusieurs décennies. 1 millier de personnes en Nouvelle-Zélande qui sont suivies de façon très régulière pour voir en fonction donc, de leur
profil de consommateur.
Voilà, exactement. La quantité de cannabis qu'ils consomment, qu'ils fument, pour être bref. Il y a des mesures de QI et on peut suivre comment ça évolue et on voit que c'est pas très bon, quoi. C'est-à-dire que le fait de fumer régulièrement et sur une longue période, on revient à ce qu'on disait, c'est mauvais pour le cerveau et donc pour l'agilité mentale. C'est un effet qui paraît maintenant avéré, et même s'il y a peu d'études comme ça, parce que ça demande des moyens et puis de travailler sur du long terme.
Chose, alors je ne sais pas si c'est amusant, mais en tout cas le détail m'a sauté aux yeux en lisant ton dossier. J'ai appris qu'une autre étude s'était penchée sur les malades de Covid long et que eux aussi, dans des cas on va dire les plus graves, perdaient jusqu'à 6 points de QI. Donc en gros, si vous fumez et que vous avez le Covid, va falloir arrêter la fumette, quoi. L'autre point que tu soulèves dans ton dossier, c'est les crises psychotiques, ou encore plus graves, les troubles schizophréniques que le THC, donc là je parle bien de la substance, pourrait précipiter, notamment chez le fumeur, on l'imagine régulier, mais pas seulement, puisque on peut très bien faire un bad trip et faire une crise dès la première consommation.
Eh oui, tout dépend des personnes. C'est ça qui est aussi difficile, c'est que beaucoup de facteurs peuvent intervenir, et notamment génétiques, en ce sens que nous sommes tous différents et on peut avoir une susceptibilité plus grande à faire, on va dire, des délires, pour simplifier, qui ressemblent à une crise psychotique. Alors ça, c'est beaucoup plus grave. C'est qu'en général, c'est un adolescent vers 15-16 ans mais qui va débloquer complètement et rentrer dans un délire. Alors ça peut être des hallucinations, ça peut être se croire persécuté, enfin, Dans ce cas-là, la responsabilité du THC, on va dire, est de plus en plus claire. Il y a à peu près 10% des gens qui peuvent faire un épisode de délire comme ça quand ils n'ont jamais fumé. Donc déjà, c'est un signe inquiétant. Et ensuite, on sait que, comme je l'ai dit, le cerveau des adolescents est en plein remaniement. C'est quand même une période fragile.
Oui, c'est un terrain mouvant.
Exactement. Mmh. Et donc, du coup, en introduisant ce facteur-là, on peut précipiter en fait un phénomène pathologique hein, qui est la schizophrénie. La schizophrénie, il y a aussi des composants génétiques. Il ne faut pas croire que c'est que le cannabis, ce serait trop simple. Mais on sait maintenant que le cannabis est vraiment à éviter pour les adolescents et a fortiori s'ils présentent déjà des fragilités.
Oui, ça peut faire un effet catalyseur.
Voilà. Et d'ailleurs, dans l'article, on met une référence de centres qui permettent, quand on voit un ado qui a des fragilités et on se demande un peu s'il ne risque pas d'avoir des problèmes psychiques, de faire un dépistage pour voir ce qu'il en est réellement. Parce que ça, c'est très important. Et dans ce cas-là, bien sûr, surtout éviter de fumer du cannabis, puisqu'on sait aussi que ces personnes, comme elles sont fragilisées et qu'elles ont besoin de relâcher un peu la pression, l'anxiété, qu'elles ont besoin de se sentir mieux en société parce qu'elles se sentent déjà mal à l'aise, eh ben elles vont forcément fumer. Mmh. Et comme elles sont jeunes, elles vont rentrer dans ce
cercle vicieux. Oui, bien sûr. C'est voilà. Que tu fumes voilà. Pour calmer tes anxiétés, mais comme tu fumes, bah, tu vas développer encore plus d'anxiété et compagnie. Je vais reprendre un chiffre que tu as utilisé tout à l'heure, Pierre, c'est celui des 10%. 10%, c'est la part parmi les consommateurs réguliers de cannabis qui contractent une forme de dépendance vis-à-vis de cette drogue qui n'est plus du tout douce, hein, on peut le dire. Comment se caractérise cette addiction ?
Eh bien, comme toutes les addictions, finalement, on connaît bien ça avec le tabac ou les addictions plus dures avec des drogues, j'allais dire dures, mais à ce stade-là, ben, le cannabis devient une drogue dure aussi. C'est-à-dire que la personne se sent obligée d'avoir sa dose de cannabis, de THC, et ça tout le temps. Donc ça va complètement perturber son quotidien, ça va lui donner une envie irrépressible toujours de revenir chercher sa dose, et ça va être prioritaire sur le reste de ses occupations. Donc maintenant, on connaît bien cette catégorie de personnes. Ça s'appelle les troubles d'usage du cannabis. Et aux États-Unis, on voit bien la part de la population maintenant qui tombe dans cette addiction et qui a beaucoup de mal à s'en sortir.
Et comment on traite cette dépendance ? Est-ce qu'on utilise... Alors, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de patch
non.
au THC, mais est-ce qu'on fait éventuellement une phase transitoire avec du CBD ?
Alors, le CBD, certaines études montreraient que ça aurait peut-être un effet un peu pour atténuer un peu les effets du THC, mais ce n'est pas encore très, très clair. Il n'y a pas de traitement. Il y a un accompagnement à faire par du personnel médical spécialisé et un engagement aussi de la personne, quoi, qui, à un moment donné, réalise que, bon, elle ne peut pas continuer comme ça.
C'est des séances chez le psy.
Voilà, et faire prendre conscience à la personne tous les avantages qu'elle a, finalement, à se débarrasser de cette addiction.
Depuis tout à l'heure, on parle du cannabis sous toutes ses formes, la plante, donc c'est-à-dire la fleur, les feuilles, mais aussi la résine hein, qu'on peut en faire. Quelle que soit la forme sous laquelle on consomme le cannabis, il y a quelque chose qui change et qui ne cesse de croître depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Hein. Pierre, t'hésites pas à me dire si je me trompe, c'est la concentration en THC à l'intérieur du produit. Alors, je me doute que cette concentration à la hausse doit avoir un impact considérable sur les effets déjà délétères qu'on connaît avec le cannabis. Est-ce que j'ai tort ?
C'est tout le problème d'ailleurs actuellement, c'est que ces concentrations-là ne sont pas comparables avec ce qu'il y avait dans les années 70. Même début des années 90, il y avait, on va dire, autour de 4% de THC. Mais maintenant, on est passé...
Tu parles de 13%, je crois, dans ton dossier.
Oui, c'est ça. On est passé à 13%. Et ça, c'est juste pour l'herbe, hein, la quantité dans l'herbe ou la fleur. Le problème, c'est que maintenant, on peut encore concentrer ça. Et là, ça peut atteindre des doses beaucoup plus importantes. Et ça devient extrêmement toxique. Et donc, du coup, ça peut, là aussi, induire beaucoup plus rapidement des problèmes psychiques et une dépendance. Et là, cette évolution-là, elle est difficile à contrôler parce qu'il y a une espèce d'émulation pour avoir toujours plus, parce qu'on aura un effet encore plus fort. Hein, voilà. Le problème, c'est qu'il y a eu d'abord une évolution au niveau de la plante, c'est-à-dire qu'on a pris des plantes dont les fleurs n'étaient pas fécondées et qui donc concentraient déjà le THC. Et puis après, par des croisements, on a pu aussi augmenter encore la quantité de THC dans la plante.
Autre chose qui augmente, c'est la consommation, l'utilisation de cannabis chez les femmes enceintes aux États-Unis, notamment pour réduire, enfin quand je dis notamment, c'est surtout pour réduire les nausées matinales. Tu ajoutes donc un usage qui augmente et une concentration de THC qui augmente. Le combo me paraît quand même très dangereux.
Ah, mais c'est là où tous les médecins américains sont vent debout, parce qu'ils s'aperçoivent que ben, y a une énorme publicité pour le cannabis aux États-Unis. C'est une publicité qui n'hésite pas à le vanter, même pour des choses qui ne sont absolument pas prouvées. Les femmes enceintes, si en plus elles sont d'un milieu social où elles n'ont pas beaucoup de revenus et qu'on leur dit qu'il est très facile de se procurer du cannabis, elles peuvent être tentées, si elles ont des nausées, de se calmer comme ça. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que le THC passe directement dans le cerveau du fœtus.
Donc, si je te comprends bien, Pierre, ce ne sont pas les médecins américains qui font des prescriptions de cannabis dit thérapeutique, et je mets tous les gros guillemets qui vont avec, mais bien là de l'automédication.
Alors, dans ce cas-là, oui. En fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'on a à un moment donné, pour des raisons qui sont propres aux États-Unis, autorisé le cannabis thérapeutique. Donc, tout ça entre guillemets, bien sûr. À partir de ce moment-là, la perception de la dangerosité du cannabis s'est complètement atténuée. On le voit très bien sur des courbes, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la perception de la nocivité du cannabis diminue, la consommation augmente. Et donc, du coup, pour des femmes enceintes, elles n'ont pas besoin de passer par un médecin, puisque de toute façon, ça sert pour traiter différentes choses et que donc, ça peut être utile pour la santé.
Et dans tout ça, puisque depuis tout à l'heure, on enfonce la tête, hein, là, on a bien écrasé le mégot dans le cendrier, mais est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? Les effets du cannabis sur le cerveau sont-ils réversibles, que ce soit chez l'adolescent ou l'adulte? Et est-ce qu'il y a des avancées dans le traitement, justement, de la dépendance? Je parlais tout à l'heure d'utiliser éventuellement des variantes de CBD pour lutter contre les effets de manque.
Alors oui, il y a quand même des éléments, puisqu'on commence à y avoir de la recherche, hein, vu l'ampleur du phénomène, les crédits se débloquent aussi pour essayer de comprendre comment pallier tous ces problèmes liés au THC. Donc, pour ce qui est de la dépendance, plus elle commence tard et plus c'est facile, je dirais, de s'en défaire. Le problème chez les adolescents, c'est que là, ça sera beaucoup plus difficile. Et on ne connaît pas encore très bien les conséquences que ça peut avoir. Hein. Donc, c'est là où il faut vraiment mettre la priorité pour la prévention. Pour les adultes, on sait que c'est plus ou moins réversible. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes de mémoire, au bout de quelques mois, ça peut se résoudre, même chez des gens qui consomment beaucoup de cannabis. Ensuite, il y a un autre espoir aussi, c'est au niveau de la recherche, puisqu'on commence à avoir des pistes pour des produits qui aideraient justement à rompre la dépendance psychique au cannabis. Un peu comme sur le modèle du tabac, un peu comme une histoire qui se répète.
Eh bien, on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Pierre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.